Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va évoquer la réforme des retraites. Franchement, Elisabeth Borne a détaillé l'intégralité ou la quasi-intégralité de ce projet. On se dirige vers un âge légal de départ à 65 ans en 2031. Les nouveautés du week-end sont que, en échange du recul de l'âge de départ, l'exécutif promet des réponses pour ceux qui ont commencé à travailler vraiment très tôt. Et puis les syndicats se réunissent aujourd'hui au siège de la FSU. On sent que la bataille ne fait que commencer. Ils vont organiser la riposte. Ce genre de chiffres qui désormais passent pratiquement inaperçus. Vendredi, là, un amendement 6 milliards d'euros supplémentaires pour financer le bouclier tarifaire dans la loi de finances 2023. Annoncer 6 milliards de plus, ça fait partie de la vie courante aujourd'hui. Ce sont pourtant des montants très importants et l'agence de notation Standard & Poor's a passé la perspective de la France de stable à négative vendredi et n'exclut pas désormais d'abaisser la note de dette souveraine de notre pays. L'Europe cherche bien la réponse face à l'IRA, la loi anti-inflation qui porte très mal son nom aux États-Unis. C'est une loi hyper-subvention. Oui, on cherche la réponse. Mais alors, pour l'instant, elle crève pas les yeux, cette réponse. Gilles Berset, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Denis Père, bonjour.
Oui, bonjour Nicolas.
Président de Nature and People First, vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Ben, la souveraineté, il en est bel et bien question en ce moment face à nos très grands amis américains. Hein. On s'est quasiment embrassé sur la bouche entre Biden et Macron. Mais derrière, on ne sait pas trop comment on va sortir
c'est
de cette
la Chine
histoire.
Si on en parlera. Mais bon. Ouais.
Michael Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en économie à Paris Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po. Vous avez publié le système de protection sociale français, à la découverte, le système français de protection sociale à la découverte. Et je voulais vous avoir aujourd'hui, car vous êtes un spécialiste des retraites, et je voulais savoir comment vous avez perçu l'ensemble des annonces d'Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien, c'était vendredi, sur l'âge de départ, sur les pensions, sur les cotisations, sur l'auto plein sans décote, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les régimes spéciaux. Bon, elle nous a pratiquement tout livré.
Oui. Sur le fond, c'est pas très surpris, mais c'est la version dure de la réforme. En fait, Elisabeth Borne redit ce qu'il y avait dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, la version 65 ans. Vous vous rappelez comment des législatives,
oui,
on disait que c'était peut-être moins, tout ça.
C'est pas fini, hein, mais elle dit ma porte est ouverte.
Oui, la porte est ouverte, mais il y a peu de marge, manifestement. Donc 65 ans. Pour les carrières longues, on croyait que c'était 62. Quand on lit bien l'interview, on se demande si ça sera pas même 63 pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Et donc, on est dans la version dure de la réforme. Ça, c'est sur le fond. Après, sur la forme, il y a quand même deux choses étonnantes. La première, c'est de donner en gros les contours de la réforme alors même que les concertations convoquées par le gouvernement ne sont pas finies.
C'est juste.
Et puis, la deuxième chose, c'est quand même un manque de sérieux, à mon avis, de la part du gouvernement sur deux points.
Ah, allez-y.
D'abord, la mise en scène de « il faut sauver le système, c'est horrible, sinon on n'aura jamais de retraite, elles vont baisser, etc. » On sait que c'est pas vrai, le rapport de corps dit que c'est pas vrai. Il manque, selon les chiffres du gouvernement, qui en gros 12 milliards à l'horizon 2027. À l'échelle du système de retraite, c'est pas dangereux. Et surtout, il y a plein d'autres façons de faire que d'imposer 3 ans de travail en plus en même pas 10 ans, ce qui est une réforme très rapide. Donc sur le fond, la mise en scène est pas sérieuse. Et puis après, quand on dit, vous dites, il y a des compensations. Même les compensations, elles sont pas bossées. Je vous donnais juste un exemple.
Allez-y.
On dit, ce serait une bonne idée de renforcer le cumul emploi-retraite.
Oui.
Pourquoi pas ? Effectivement, à l'approche de la retraite, on pourrait envisager une cessation progressive d'activité sans baisser les droits à la retraite.
C'est la retraite progressive aussi, il y a l'autre dispositif.
Pourquoi pas ? Mais vous croyez vraiment que le cumul emploi-retraite qui n'est pas utilisé aujourd'hui quand la retraite est à 62 ans, on va l'utiliser plus quand la retraite sera à 65 ans ?
La question mérite d'être posée.
C'est pas sérieux.
Bon. Et y a plein de choses comme ça. Mais il y en a très peu, je crois, des cumulons pour retraite, en fait.
Oui, il y en a très peu. Si on veut les renforcer, pas de problème, mais c'est pas en mettant la retraite à 65 ans qu'il y en aura plus, bon. Soyons logiques.
Gilles Bercel, votre avis par rapport à cette situation? Michael Zemmour nous dit le système, il n'est pas fondamentalement menacé, contrairement à ce qu'on nous dit, et ce serait une version de réforme des retraites la plus dure qu'on puisse imaginer. Comment vous avez perçu l'intervention?
D'abord, je trouve ça assez normal que le gouvernement avance, des lignes de proposition par rapport à cette réforme, tout en disant bon, c'est des lignes de départ et la négociation s'amorce, quoi. Donc, il est clair que la réforme des retraites ne sera pas celle qui a été annoncée par la Première ministre. Ça sera quelque chose d'autre qui résultera, d'interactions entre le gouvernement, bien sûr, et les partenaires sociaux. On verra s'il peut y avoir des points de rapprochement sur la carrière longue, sur la pénibilité, même sur l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est une première chose.
Je pense que l'âge, il peut bouger encore. Vous dites 65 pour pouvoir reculer.
Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Bon, par ailleurs, sur ce que nous disent les projections du corps, tout le monde peut trouver ce qu'il veut dans les projections
du
corps.
C'est un peu vrai. Oui.
Il y a beaucoup de scénarios qui ne sont pas réellement probabilisés, et donc chacun peut y faire son marché. Quand on est un pays comme la France, on peut regarder un petit peu au-dessus de la palissade et se dire, mais qu'est-ce qu'ils font les autres pays face à ce problème du vieillissement de la population? Bon, moi je regarde, je vois que les pays autour de nous, et en particulier ceux qu'on considère comme les plus pertinents, le benchmark en quelque sorte en termes d'inégalités faibles, à la fois de patrimoine et de revenus, sont des pays qui augmentent l'âge de départ à la retraite. Le monde entier, le monde avancé autour de nous, prolonge l'âge de départ à la retraite. Alors on a peut-être en France toujours des recettes magique pour faire face à cette question de cette bonne nouvelle, de l'allongement de l'espérance de vie, et même de l'espérance de vie en bonne santé, il faut le souligner, qui depuis 2010 s'est allongé de quasiment presque deux années depuis 2010. Néanmoins, peut-être que tous les autres pays ne sont pas complètement cinglés, et qu'en France, il faut éviter de rechercher des voies originales pour le financement de pensions de retraite, qui représentent aujourd'hui déjà un bon 14% du produit intérieur brut. Maintenant, il faut que cette réforme soit équitable, avec un bon traitement des carrières longues, avec un traitement de la pénibilité, ce qui n'est pas simple. Ce qui est même très très complexe.
Ils sont le plus vague aujourd'hui.
Ce qui est même très très complexe.
Le compte de pénibilité 2013-2014 était si complexe qu'il était inapplicable. Donc,
et je dirais que les raisons, cette réforme des retraites, c'est pas simplement l'équilibre des caisses de retraite. C'est aussi l'augmentation du PIB par habitant. Et donc, l'augmentation du niveau de vie, par ailleurs, de chacun. Voilà, s'il y a plus de PIB, il y a plus de recettes fiscales, aussi de TVA, aussi d'impôts sur le revenu. Et ça, ça facilite évidemment le rétablissement de nos finances publiques. Et puis, l'augmentation du PIB par habitant, ça fait plus de revenus à distribuer, du pouvoir d'achat en plus.
J'ai constaté, a priori, même les opposants à la réforme des retraites ne nient pas le fait que d'être passé de 60 à 62 ans a amélioré le taux d'emploi des seniors en France. Réaction de Julien, qui me dit un grand merci de recevoir Michael Zemmour. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est bien de recevoir des gens qui ont de vrais arguments, ça fait avancer le débat. Monsieur Denis Père, votre lecture.
Oui, ma lecture, moi j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Gilbert, je suis très en phase avec sa réaction, sauf sur un point simplement, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de volet capitalisation du tout dans cette réforme. Croissance Plus et l'Institut Molinari avaient fait des propositions il n'y a pas très longtemps pour avoir une petite dose de capitalisation modeste, dont on sait que c'est une manière d'arriver aussi à équilibrer le système à terme avec la démographie qu'on a aujourd'hui, et qui a aussi d'autres avantages considérables pour l'économie en créant un actionnariat stable, de longue durée. On sait que l'économie américaine est très largement financée par les fonds de pension américains, d'ailleurs une partie des économies européennes aussi. Donc on sait que c'est une solution. Elle existe en France aujourd'hui, mais elle est réservée à une petite élite, à quelques fonctionnaires à travers les RAF, qui marchent bien d'ailleurs, qui a plutôt très bons résultats. Même les syndicats aujourd'hui défendent les RAF. Ils siègent au Conseil et ils voient la progression du fonds RAF régulièrement. Et donc c'est dommage qu'il y ait quelque part une espèce de discrimination et que finalement l'ensemble des Français puissent pas en bénéficier et par ailleurs permettre d'avoir un actionnariat stable. On l'a vu quand on a vu nos grandes entreprises industrielles disparaître, être rachetées facilement parce qu'il n'y avait pas d'actionnaire industriel stable de longue durée comme pourrait l'être des fonds de pension. On voit bien que c'est un enjeu qui dépasse même largement le débat sur les retraites.
Bon, les fonds de pension, effectivement, il en est absolument pas question, même si à l'origine, à la fin des années 90, c'était bien un gouvernement gauche qui avait pu imaginer les mettre en place. L'OCDE, hein, dans une note publiée la semaine dernière, plaide exactement pour les fonds de pension en disant que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le financement des entreprises, c'est aussi bon pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Les fonds de pension...
Pour rappeler ça, effectivement, hein, 1 euro en répartition 20 ans après, ça pèse toujours 1 euro. 1 euro en capitalisation, 20 ans plus tard, c'est 2, 3, 4 euros. Hein, donc c'est en termes de pouvoir d'achat.
Je vais le faire réagir.
C'est son choix, mais on l'a bien vu historiquement sur les 40 dernières années. Au moins, c'est ce qui s'est passé.
Michaël Zemmour, la capitalisation, il n'en est pas question aujourd'hui. C'est un sujet qu'on évoque là dans notre débat, mais ce n'est pas du tout aujourd'hui à l'ordre du jour.
D'abord, la capitalisation, ça existe en France. La loi Pacte a encore simplifié les dispositifs. Il y a les PERP, il y a les PERCO. Donc, vos collègues qui gèrent des fonds de capitalisation seraient vexés si vous disiez que ça n'existe pas.
C'est marginal.
Ça ne marche pas parce que la France a fait le choix d'un système de haut niveau de protection retraite et que du coup, ça rend relativement superflu un système supplémentaire. Ensuite, dire que c'est plus rentable, c'est comme si vous disiez les gagnants au loto, c'est plus rentable que de ne pas avoir joué. Bah oui, évidemment, c'est comme ça à la bourse. Mais en réalité, ça, c'est ce qu'on racontait dans les années 80. Que c'est plus rentable la capitalisation. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la capitalisation, c'est plus volatile et plus risqué. Donc, en moyenne, ça rapporte plus. Et puis, si vous liquidez votre retraite la mauvaise année, vous avez beaucoup moins de retraite qu'en répartition. Moi, je voudrais revenir quand même sur l'histoire du niveau de vie.
Bon, alors, juste avant le niveau de vie, Michael, quand vous parlez aujourd'hui avec des gestionnaires professionnels, c'est un métier, la gestion d'actifs. Entre celui qui a 30 ans et celui qui en a 56, il y a une façon de gérer les fonds avec des prises de risque complètement différente en fonction de l'âge que vous avez. Et quand vous arrivez à proximité de la retraite, on a très largement sécurisé vos investissements dans des produits peu volatiles, peu exposés, avec de la dette souveraine, histoire justement de sécuriser le parcours. Enfin, voilà, il ne faut pas caricaturer la capitalisation comme si elle pouvait faire pchit d'un coup d'un seul en cas de retournement de marché.
C'est quand même ce qui s'est passé dans de nombreux pays où, finalement, quand il y a eu des crises de capitalisation, qui c'est qui est venu à la rescousse ? Soit la Banque centrale,
on l'a vu en Grande-Bretagne,
soit les États. Donc, je ne veux pas non plus la diaboliser, mais dire que ça serait la recette miracle et que ça rendrait les gens riches, enfin, c'est une fausse idée.
C'est pas ce que je dis. Bon, c'est juste un complément intelligent et qui permet d'équilibrer le système.
Le niveau de vie, qu'est-ce que vous voulez dire sur le niveau de vie ? Parce que moi, après, je voudrais revenir sur ce que disait Gilbert Sept.
Mais justement.
Tout ça est un point de départ et la négociation va nous faire atterrir sur quelque chose d'autre qui n'est pas exactement les feuilles que nous avons pu lire vendredi.
Sur le niveau de vie des seniors, il y a vraiment, moi je pense que fondamentalement, on n'est pas prêt pour cette réforme. On n'est pas prêt d'abord parce que les dernières réformes qui ont allongé la durée de cotisation, on n'a pas fini de les manger. C'est-à-dire que la durée de cotisation, elle est aujourd'hui à 42 annuités, elle va continuer à aller jusqu'à 43 annuités.
Oui, c'est la réforme Touraine, ça.
La durée de la retraite aujourd'hui, des gens qui partent aujourd'hui et l'année prochaine et l'année d'après, elle est plus courte que les gens qui sont partis il y a 10 ans. Parce que les dernières réformes ont été dures. Et le marché du travail, il ne s'est pas adapté à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui sont en emploi au moment de la retraite, ils sont restés en emploi, ça y a pas de souci pour eux, sauf qu'en général, ils n'en ont pas envie. Mais à côté de ça, vous avez 3 ou 4 personnes sur 10 qui ne sont pas en emploi à 60 ans et qui restent de plus en plus longtemps au chômage, au RSA, en invalidité. Qui sont ces personnes ? C'est massivement des ouvriers, à peu près un ouvrier sur 3. C'est la catégorie socio-professionnelle la plus nombreuse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des personnes qui sont à 2 ans de la retraite, qui sont déjà au chômage parce qu'elles ont subi un plan social. Le gouvernement vient d'annoncer qu'au lieu d'avoir jusqu'à 3 ans de chômage, ces personnes vont avoir que 27 mois de chômage.
C'est la réforme de l'assurance chômage, ça.
Elles viennent donc de perdre 9 mois de chômage et de savoir qu'elles vont faire 9 mois au RSA. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit ? En plus, la retraite va reculer de 4 mois pour la première génération, puis de 8 mois, puis de 12 mois, etc. Donc on est en train de construire un sas de précarité pour les seniors et pas 10 000, 20 000, des centaines de milliers de personnes.
Forcément, dans une réforme un petit peu équilibrée, il y a forcément des solutions pour prendre en compte le sujet que vous décrivez. Je ne sais pas combien ça représente de personnes par an sur le nombre de départs à la retraite. C'est quoi ? C'est 700 000 les retraites par an ?
700 000 départs par an.
Sur les 700 000, il y a combien de cas un peu complexes qu'il faudrait essayer, auxquels il faudrait essayer d'apporter des réponses opérationnelles
en fait. Des personnes qui ne passent pas de l'emploi à la retraite, il y en a à peu près 3 sur 10 ou 4 sur 10. Et il y a des secteurs où c'est massif, le secteur du nettoyage, c'est massif.
Mais alors
Le gouvernement ne veut pas entendre parler de la pénibilité par métier. Il ne veut pas dire pour le secteur du nettoyage, on partira plus tôt.
Par branche. Normalement, on dirige vers une négociation par branche.
Le président de la République dit des trucs individuels. Je ne veux pas de trucs par métier. Bon. Aujourd'hui, la pénibilité, elle est prise en compte comment ? Il y a quelques facteurs qui ont été réduits.
Oui.
Et puis, en fait, elle est prise en compte quand vous êtes vous-même usé. C'est-à-dire que si vous pouvez prouver... D'ailleurs, la première ministre l'a redit dans son interview. Si vous pouvez prouver que le travail vous a rendu hors d'usage, alors vous pouvez partir plus tôt. On a aucun système de prévention vraiment efficace.
Mais ce que
donc,
vous dites... oui.
On n'est pas prêt pour cette réforme. Deuxième point pour lequel on n'est pas prêt, et après je vous rends la parole. Vous êtes au courant qu'il y a une crise macroéconomique qui s'annonce.
Ça sent un peu la récession. Oui, ça sent un peu la récession.
Tous les modèles macro, ceux du Trésor, ceux de l'OFCE, nous disent qu'on fait une réforme de retraite à court terme, ça génère du chômage et ça génère un effet récessif.
La courbe en J, la réforme.
Et donc, même François Eckel, qui vient de temps en temps sur ce plateau, nous dit c'est pas le moment. Il va peut-être falloir ajourner un peu.
Bon.
Donc moi, je pense qu'on n'est pas prêt.
De toute façon, la courbe en J, peu importe le moment où vous la faites, vous l'avez, votre courbe en J des réformes.
Mais si vous le faites au moment de la récession, c'est moins bien.
Par rapport à ce qui a été dit, Gilbert Sept et Denis Père... Allez-y, Gilbert.
Je reportais quand même quelques petits détails, la connaissance. L'âge de départ à la retraite, 64 ans en Suède. L'âge de départ à la retraite, 67 ans en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas. L'âge de départ à la retraite, 69 ans au Royaume-Uni, en Italie. Le monde autour de nous, je pourrais continuer la liste comme ça.
C'est quel âge de départ ?
Le monde autour de nous, c'est celui-là. Nous, on peut être à part. On peut penser qu'on est un îlot préservé de toute nécessité économique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une aspiration très forte en France pour l'augmentation du pouvoir d'achat. On le voit en ce moment dans les débats qui existent en ce moment. Augmenter l'âge de départ à la retraite, ça augmente la population sur le marché du travail, ça augmente la population en emploi. D'ailleurs, on voit que le taux d'emploi des seniors sur les 20 dernières années a augmenté de quasiment un point par an en France. Un point par an. Vous voyez, le problème d'emploi des seniors qui vient d'être évoqué se heurte quand même à une contradiction avec les données statistiques. Un point de plus par an pour le taux d'emploi, pour le taux d'emploi des seniors.
Il y a des personnes qui restent en emploi
et l'augmentation
au chômage.
Et l'augmentation. Le taux de chômage des seniors n'est pas si...
C'est pas le taux qu'il faut regarder.
Le taux de chômage des seniors, je t'ai pas interrompu, s'il te plaît. Le taux d'emploi des seniors n'est pas si élevé que ça.
Taux de chômage,
ça, c'est le taux de chômage, pardon.
Le taux de chômage des seniors. En théorie, sous le taux de chômage national.
N'est pas si élevé que ça. Et le taux d'emploi des seniors chute brutalement à partir de 60-62 ans en rapport avec cet âge de départ à la retraite.
Ah oui.
Et la possibilité, évidemment, de bénéficier de dispositions comme les 3 ans d'indemnisation chômage à partir de 55 ans. Non, cette augmentation de l'âge, c'est un petit peu du bon sens. C'est un moyen aussi d'augmenter le niveau de vie de chacun, le pouvoir d'achat de chacun. C'est pour ça que le pouvoir d'achat, d'ailleurs, des ménages allemands, des ménages de beaucoup de pays, est beaucoup plus élevé que le nôtre. C'est parce que la population en emploi est quasiment de 10 points supérieure à nous. Donc ça, c'est
un sujet clé.
C'est un sujet évidemment clé. Alors maintenant, c'est jamais le bon moment pour réformer. J'entends bien. C'est jamais le bon moment. Quand tout va bien, on se dit, faut-il réformer, tout va bien. Quand tout va mal, on se dit, ah, ça va mal, il faut pas réformer. Bon, moi, je considère que c'est évidemment le bon moment pour réformer. Et cette réforme, associée à la réforme de l'indemnisation chômage, qui laisse la France dans la situation des pays dans lesquels la durée d'indemnisation est la plus longue. C'est pas le pays dans lequel c'est le plus long. Néanmoins, c'est l'un des pays dans lequel c'est le plus long.
C'est l'un des.
Vous voyez, c'est pas un pays quand même qui pousse à la précarité une population énorme. Dans les autres pays, c'est plus court. Bon, il me semble qu'on va dans le bon sens, comme le rachat des jours RTT pour les ménages, pour les salariés qu'ils veulent. Ce sont des mesures de pouvoir d'achat.
Qu'est-ce que je voulais dire, Michael? L'histoire que vous décrivez, le problème de ces personnes, de ces seniors qui n'ont plus d'emploi, qui sont sur la touche avant l'âge de départ, qui sont les plus exposés à des métiers pénibles, ce problème a bien dû se poser dans plein de pays qui ont reculé l'âge de départ à la retraite. Alors moi, je suis moins expert que vous sur le sujet. Comment ils ont fait, les Allemands, comment ils ont fait tous ces pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite? Ils ont aussi des gens qui sont peu qualifiés, ils ont aussi des gens qui, arrivés à cet âge-là, n'ont plus la possibilité de faire des métiers pénibles. Il a bien fallu... Alors soit c'est le tiers-monde, soit on a apporté des réponses quand même.
Alors, trois ou quatre éléments de réponse. D'abord, sur les âges de la retraite, en fait, la France va se retrouver dans les âges effectifs de la retraite, pas les âges légaux, parce qu'il y a toujours des dispositifs, etc.
Il y a des
âges effectifs, à peu près au même niveau que ses voisins. Alors, certains ont aussi la volonté d'aller plus loin encore, mais à peu près au même niveau que ses voisins. Et dans les âges de fin d'emploi, on est à peu près au même niveau que les voisins. Maintenant, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, le travail est plus dur en France. manifestement, ils l'usent plus. Vous donniez les pays d'Europe du Nord. Effectivement, les gens partent plus tard, mais l'usure au travail est très différente. On n'a pas réussi à améliorer les conditions de travail de telle sorte qu'on puisse travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Je suis d'accord avec vous, on a un taux d'emploi des seniors plus faible, mais il y a une façon exigeante d'augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est permettre, alors qu'on a une retraite à 62 ans, aux personnes qui sont en emploi à 50, 51, 52, de rester en emploi jusqu'à 62 ans. Et pour ça, il faut au moins deux choses. La première, c'est changer les conditions de travail, puisque dans le secteur des EHPAD, dans le secteur du nettoyage, c'est pas possible. C'est tellement pas possible que les employeurs vous mettent dehors avant. Vous êtes usé avant la retraite. Ça, c'est une vision ambitieuse pour augmenter l'emploi des seniors. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire on décale l'âge de la retraite, on verra bien qui tient. Et dans le « on verra bien qui tient », il va y avoir une dégradation des conditions de vie massive. Et dernier élément sur les autres pays...
Et on marque une pause après.
Tout à fait. Les citoyennes et les citoyens dans les autres pays ne sont pas très contents de leur système de retraite. Il y a des pays où les gens cumulent emploi-retraite, pas parce qu'ils ont envie, mais parce que leur retraite ne suffit pas. Il y a des pays où il y a beaucoup de monde en invalidité, en incapacité, en handicap, dans des proportions très larges, qui jouent à peu près le rôle de l'assurance chômage en France. Donc il ne faut pas peindre les choses comme ça de manière complètement binaire entre la France et les pays étrangers.
Emmanuel Grimaud qui me dit, le vrai chiffre est 10-12% pour ceux qui sont au chômage avant la retraite. C'est un spécialiste du sujet.
Oui, mais c'est... Il y a eu... Il ne faut pas regarder juste le taux de chômage. Il faut regarder, quand vous prenez la population qui prend sa retraite, vous en avez à peu près 3 ou 4 sur 10 qui n'est pas en emploi et qui est en emploi à 50 ans. Ce n'est pas des gens qui ont jamais bossé.
On n'arrête pas de se battre sur la vérité de ces chiffres des seniors avant la retraite.
Je les ai regardés de près.
Mais j'imagine, on marque une pause. Vous réagirez, Denis Père, et puis on va clore ce sujet avec des pistes que vous avez évoquées dans un article d'Alternatives économiques pour combler le déficit des retraites sans se fatiguer. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Gilles Berset est professeur d'économie à Neoma Business School. Il a coécrit « Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine, celle du numérique » chez Odile Jacob. Denis Père, président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation, mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Et Michael Zemmour, maître de conférences en économie à Paris, Panthéon, Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po, qui a publié « Le système français de protection sociale à la découverte ». Plein de réactions. Je pourrais pas tout. Alors j'ai une auditrice qui me dit Gilbert, moi ça m'est égal comment font les autres. Bonjour Nicolas, je pense que la réforme des retraites voulue par le gouvernement est faite pour rassurer les marchés et l'Union européenne. Il y a de ça aussi, c'est vrai, écrit Fabrice, afin d'obtenir une crédibilité et une baisse des taux d'intérêt. C'est vrai que ça fait aussi partie des réformes structurelles que l'on met en avant comme étant le gage d'une volonté de. Bon, réaction de Denis Père à ce qu'on disait. Un mot de pénibilité, et puis on termine avec les propositions.
C'est important de rappeler effectivement que ça fait partie des réformes structurelles qui sont exigées des partenaires européens et des créanciers du pays pour continuer à prêter allègrement des sommes considérables à l'État français. Et le discours effectivement très caricatural qu'on vient d'entendre, qui est le discours de l'ultra-gauche, qui caricature absolument tout ce qui a été proposé, les fonds de pension c'est le loto, alors que tous les grands pays développés le font et que ça marche très bien depuis des années, le fait qu'il y a plus, que la pénibilité en France, et on s'abîme plus au travail en France que dans les pays voisins.
C'est absolument délirant
que le fait que les voisins aient tous repoussé leur âge de la retraite à 67 ans, même dans certains cas, c'est complètement débile et on ne doit pas faire la même chose et les gens sont extrêmement malheureux et que la solution c'est d'augmenter encore les prélèvements dans un pays qui est champion du monde des prélèvements. C'est juste n'importe quoi. C'est l'ultra-gauche qui n'a jamais été élu en France, qui représente 3% de l'électorat et qui simplement ne fonctionne pas.
Donc, toutes les organisations syndicales de ce pays qui ne sont pas toutes d'ultra-gauche, qui disent toutes aujourd'hui au gouvernement, pas de réforme paramétrique. Mais vous pouvez caricaturer
si vous voulez. Ils sont dans leur rôle, bien sûr. Et c'est normal. Et ils vont négocier. Mais votre discours est totalement caricatural. En particulier vos propositions sur la façon de résoudre le problème. Continuons d'augmenter les prélèvements. C'est juste délirant.
J'en dis un mot avant la pénibilité, justement. Donc, vous avez signé dans Alter Equo un papier avec 5 pistes. C'est vrai que c'est des pistes qui ressemblent à des prélèvements d'une certaine manière, puisque l'épargne salariale est soumise à cotisation. La CVAE, son retrait est écarté. Les cotisations sont augmentées et des exonérations de cotisations au-delà de 2,5 SMIC sont abaissées ou supprimées. C'est donc le prélèvement obligatoire, en fait, qui fait qu'on trouve...
Alors, moi, je suis très tranquille avec ça.
On est d'accord, hein, enfin, objectivement, c'est du prélèvement obligatoire.
Pour l'instant, si on fait rien, les dépenses de retraite en part du PIB se stabilisent ou diminuent. Le gouvernement dit « il me faut 12 milliards pour 2027 ». C'est un chiffre qu'on pourrait discuter, les diagnostics, mais prenons le chiffre de 12 milliards. Premier élément, moi, je fais au plus difficile. Si on allait voir les Français en disant « c'est vous qui allez payer sur votre salaire en cotisation que salarié, même pas employeur salarié, hein, que salarié, qui se retranscrit que sur le salaire net, combien ça coûterait ?» Au salaire moyen, 21 euros net en 2027 par mois. Et donc, si vous allez voir les gens qui travaillent à BFM, au cadrage, au maquillage, les gens qui travaillent juste dans le magasin d'à côté, vous leur dites 21 euros net par mois ou la retraite à 65 ans ? À mon avis, ils réfléchissent à deux fois avant d'être pour la retraite à 65 ans. Ça, c'est la version la plus dure. Maintenant, si vous ne voulez pas augmenter les cotisations sur les plus petits salaires, on peut faire autrement. On peut ne pas baisser les impôts de production, une réforme qui va coûter 8 milliards par an et qui n'a même pas été évaluée ex ante. On ne sait même pas ce que ça va faire sur l'économie. Il n'y a même pas de promesse.
Ça va baisser les prélèvements obligatoires dans un domaine où ils sont plus élevés que dans
d'autres pays. Ça va créer combien d'emplois ? On ne sait pas. Ça va améliorer la compétitivité de combien ? On ne sait pas. Vous dépensez souvent 8 milliards sans savoir ce que ça va faire, vous ? Moi, pas.
Je pars du principe que si vous donnez plus d'air aux entreprises en les taxant moins, a priori,
Il y aura peut-être qu'elles vont juste améliorer leur marge et c'est tout.
Ouais, enfin, quand on voit tous les choix de politique de l'offre qui ont été pris depuis le CICE de François Hollande, on constate quand même qu'il y a des effets positifs en matière de compétitivité, d'attractivité de la France.
Mais ça veut rien dire effet positif. Ben, si un effet positif, c'est 10 emplois, l'effet est positif. Vous allez dépenser 15 milliards. Le CICE.
Ben, les années de création d'emplois qu'on vient d'avoir, elles ne sont pas tombées de nulle part quand même.
Ben, bien sûr, il y a une reprise économique. Le CICE.
Oui.
15 milliards d'euros en gros, évalué à 100 000 emplois créés. Est-ce que c'est pas trop cher, Nicolas ?
C'est très difficile de faire des évaluations. D'ailleurs, France Stratégie, qui suit notamment l'évaluation de la réforme fiscale de 2017, a remis sa quatrième évaluation en disant, depuis ces choix politiques, notamment de baisse de la fiscalité sur le capital, il y a eu indéniablement des progrès, mais vous ne pouvez pas cibler un euro libéré en 2017 pour savoir où est-ce qu'il a atterri aujourd'hui. La théorie du ruissellement pur est très théorique.
Moi, je vous dis juste que quand il s'agit de baisser les impôts sur les entreprises, on est très courageux, très aventureux. Bon. Par contre, quand il faut mettre quelques euros pour maintenir la retraite à 62 ans, on l'est loin.
Bon, dernier élément, après, on avance. Parce que,
vous parliez d'épargne salariale.
Oui.
Aujourd'hui, quand il y a de l'intéressement ou de la participation ou des primes dans le secteur public, ça ne compte pas pour les retraites. Et du coup, ça ne rentre pas de cotisation. Si vous soumettiez ces éléments-là à cotisation, ça ferait des droits supplémentaires pour les salariés et ça alimenterait les caisses de retraite. Alors à long terme, ça ne change rien. Vous augmentez les droits d'un côté, vous augmentez les recettes de l'autre. Mais à court terme, ça réduirait considérablement le déficit, notamment à l'horizon 2027. Donc ça veut dire que quand vous avez de l'intéressement et de la participation ou des primes ou des heures sup, on pourrait les rentrer dans le calcul de votre retraite. Je pense que c'est un deal qu'on peut mettre sur la table.
J'entends les propositions que vous défendez. Moi, j'aime bien le débat et c'est un sujet fondamental. Donc, je suis prêt à écouter toute piste. La pénibilité est probablement...
Deux petits points. Alors, les 21 euros qui viennent d'être évoqués sont un chiffre complètement trompeur. C'est une manipulation.
Ah non.
Pourquoi c'est une manipulation?
Laissez-le répondre.
C'est une manipulation pour quelle raison? Parce que il faut pas rester uniquement la question du financement des retraites. Augmenter l'âge de départ à la retraite, ça fait plus de personnes qui travaillent, ça fait plus de PIB, ça fait plus de revenus à distribuer.
Combien et pour
ça fait plus d'impôts prélevés par les pouvoirs publics, d'impôts et taxes prélevés par les pouvoirs publics. Et donc, il y a un enrichissement qui dépasse largement ces 21 euros, qui est lié au fait qu'on produit plus, il y a plus de revenus, et puis il y a moins à rembourser en termes de dette publique. L'addition commence à être autrement plus salée. Alors maintenant, sur la question de la pénibilité, c'est une vraie question, mais une vraie question d'une difficulté sans nom.
On essaie de le faire
quand on regarde ce qui se fait dans d'autres pays, on trouve pas d'illustration de quelque chose qui soit satisfaisant sur ce plan-là. Loin de là, d'ailleurs, peu de pays s'y sont.
Donc tout le monde a un problème avec ce sujet.
Voilà, tout le monde a un problème sur ce sujet qui est pas facile. Hein. Alors pourquoi vouloir le régler par branche ? Eh bien, pour que les branches pas par métier, qu'on s'entende bien. C'est pas du tout la même chose. Par branche.
Non, je suis d'accord.
Eh bien, pour qu'il y ait un mécanisme compensateur, en quelque sorte, des branches, dans les branches, pour celles qui font beaucoup de pénibilité, celles qui en font moins, celles qui laissent leurs salariés longtemps dans des situations avec des critères de pénibilité, celles qui, au contraire, essayent de les laisser peu de temps et les accompagnent ensuite via des mobilités sur d'autres postes de travail. Il y a toutes ces questions-là sur la pénibilité à évoquer dans le débat qui va être engagé. C'est des questions d'une complexité inouïe. En tout cas, la plus mauvaise chose, ça serait de le régler par métier, parce que il y aurait évidemment beaucoup de comportements qui pourraient être pervers et qui pourraient aboutir en quelque sorte à alourdir la facture pour les finances publiques. Et puis, le traiter au niveau individuel, ça offre d'autres difficultés qui sont, on règle les choses quand elles apparaissent sous forme de pathologie, ce qui n'est pas complètement satisfaisant également.
Réaction, j'en ai plein. Réaction de Pierre qui me dit « Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, je fais travailler beaucoup de gens qui ont plus de 60 ans et qui sont ravis de travailler encore. »
Absolument.
Mais personne ne l'empêche.
J'en ai plein.
L'espérance de vie a augmenté en France. Hein.
Ouais. Bon, oui, et la durée de la retraite a diminué.
L'espérance de... Ah bon ? Ah bon ? Elle a diminué à cause des 2 ans. L'espérance de vie en bonne santé a augmenté également de près de 2 ans depuis 2010.
J'avance.
Évidemment qu'elle a diminué, puisqu'il y a eu la
réforme. On va en parler énormément, messieurs, des retraites. C'est tout le début, là. C'est le tout début. Et en tout cas, ça passera pas en 49.3 discrètement avant Noël. Ça, Elisabeth Borne l'a clairement indiqué. Oui. On ne sait pas quel sera le véhicule législatif. Hein. Ça peut être une loi de finances rectificative en 2023, auquel cas le 49.3 pourrait être utilisé, puisqu'il est utilisable sans limite pour les textes de loi de finances. Je vais directement sur l'IRA, et puis on dirait un mot de SMIC, j'espère, parce que je veux absolument vous entendre là-dessus. Il y a le mot souveraineté dans votre livre.
Bien sûr.
Et moi, j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt à la conférence de presse de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Ouais. Et on les sentait tous les deux mal à l'aise sur ce sujet. Ouais, ouais. Ils étaient là, entre guillemets, à s'embrasser sur la bouche. On est des pays qui nous aimons depuis toujours. Ouais. Mais il y a une grosse épine et elle n'est pas prête d'être retirée du pied, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment vous voyez ça. On a, tous les jours, la presse nous dit, les Européens cherchent la réponse. Ah ouais, mais... Ouais.
Qu'a fait la direction Biden ? Elle a résolu 2 problèmes avec l'IRA. Elle a résolu un premier problème qui est la lutte contre le réchauffement climatique, et ça, en tout cas, elle accélère la lutte contre le réchauffement climatique, qui était un vrai problème puisque Trump l'avait mis entre parenthèses. Il n'y avait plus que quelques États un peu progressistes sur la côte ouest et dans le nord-est des États-Unis qui continuaient de travailler sur le sujet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Hein. Et surtout, elle résout un autre problème absolument majeur qui avait été dénoncé par Trump, à raison, qui était le déséquilibre du commerce mondial et en particulier la relation avec la Chine, qui avait fait que la plupart des outils de la transition énergétique, des industries de la transition énergétique, étaient devenues chinoises parce que les accords commerciaux de libre-échange avec la Chine sont fondamentalement déséquilibrés et qu'en plus, la Chine a rajouté des choses qui sont parfaitement interdites au titre de l'OMC, qui sont des subventions tous azimuts à des industries considérées comme stratégiques, considérées comme souveraines. Au titre de l'OMC, vous n'avez le droit de subventionner que la R&D, que la recherche et développement. La Chine, depuis 20 ans pratiquement, depuis son entrée dans l'OMC, a subventionné massivement le photovoltaïque, a subventionné massivement les batteries, subventionne maintenant massivement les éoliennes, et a pris le total contrôle de ces industries. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus d'industrie photovoltaïque en Occident, vous n'avez pratiquement plus d'industrie de la batterie, 80% des cellules de batterie...
On est en train de se réveiller tardivement.
On construit des usines tournevis, Nicolas. 80% des cellules, qui est le cœur de la batterie, des cellules de batterie lithium-ion, restent fabriquées en Chine aujourd'hui. Et ils contrôlent toute la supply chain en amont aussi, les mines, etc., le raffinage, etc., du lithium, du cobalt, du nickel, etc. Donc il y a eu une volonté forte, effectivement, des États-Unis de dire « on ne veut pas, pour ces outils majeurs pour notre avenir, qui sont au cœur de nos réseaux électriques, on ne veut pas dépendre complètement de la Chine. » Et on veut
Ça, je comprends, mais là, maintenant, c'est les Européens qui sont boutés de...
Oui, mais alors, bien sûr, mais c'est une conséquence de cette décision. Et on veut aussi récupérer les emplois. Rappelez-vous, Biden, qui a reconquis un certain nombre d'emplois de la Rust Belt, en particulier la Pennsylvanie et le Michigan, qui avaient été perdus, qui étaient des emplois blue-collar, historiques, démocrates depuis toujours, et qui avaient basculé républicain en 2017, Biden a dit « je serai plus dur que Trump avec la Chine ». C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc c'est avant tout une réaction des États-Unis par rapport au fait qu'une bonne partie de l'industrie, des industries de la transition énergétique, ont basculé en Chine avec des conséquences sociales et des conséquences stratégiques de souveraineté majeure. Et l'Europe est finalement subit effectivement les conséquences de cette politique. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Je pense que la réponse, et d'ailleurs elle a été suggérée par Catherine Tai, c'était dans The Economist ce week-end, qui est la secrétaire d'État au commerce américaine, elle dit, mais les Européens, faites la même chose.
Alors, c'est ce que dit Robert Habeck la semaine dernière.
Faites la même chose.
Bruno Le Maire allemand.
Hein. Et il y a effectivement des outils en Europe qui pourraient permettre de faire ça. Au moment du Covid, il y a un outil qui a été mis en place, qui ressemble un peu à ce qui pourrait être fait, pour inciter aussi pour que les subventions, finalement, de la transition énergétique soient conditionnées à de la valeur ajoutée locale. Donc ça, c'est la réponse. Cela dit, selon moi, c'est une réponse qui est imparfaite. parce que c'est une réponse qui jette aux orties quand même, et c'est quelque chose qu'il faut dire à nos amis américains, qui jette aux orties 50 ans de théorie du libre-échange, où le libre-échange a certes ses limites quand il est organisé entre pays qui ne se ressemblent pas, comme la Chine avec des standards sociaux environnementaux au rabais, où c'est Dickens, c'est Zola en Chine aujourd'hui, en matière de standards sociaux et des standards environnementaux qui sont très bas aussi, et des pays occidentaux qui ont des standards sociaux beaucoup plus élevés, et donc des coûts beaucoup plus élevés. Donc ça ne marche pas, le libre-échange entre ce type d'environnement, mais le libre-échange entre pays qui se ressemblent, comme l'Union européenne et les États-Unis, ça marche extrêmement bien, c'est créateur de prospérité.
J'entends Denis Permis, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pareil ou on fait pas pareil ?
Alors, on fait pareil, mais on dit, c'est ce qu'a demandé d'ailleurs apparemment Emmanuel Macron lors de sa visite, on dit, vous versez des subventions à des pays, à des produits qui ont du contenu dans la zone NAFTA, la zone ALENA, et dans l'Union européenne, et réciproquement. Et on crée une vaste zone de libre-échange au niveau des pays qui se ressemblent, qui ont les mêmes standards sociaux, les mêmes standards environnementaux.
La planète.
Elle est totalement fragmentée. Là, c'est bien pire encore ce qui se passe aujourd'hui, Nicolas. C'est les États-Unis, enfin c'est le groupe ALENA, NAFTA, c'est-à-dire les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui créent effectivement une petite zone totalement fermée au reste du monde. Donc moi, ce que je propose, c'est quand même de l'élargir, mais de l'élargir à des pays qui se ressemblent. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est probablement ce qui devrait se passer. Après, on verra. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer, mais en tout cas, la première réponse européenne devrait être de faire la même chose, de dire il doit y avoir du contenu local, c'est indispensable.
Gilbert Sette, par rapport à cette situation, l'instant, alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un élément de proposition qui est fait. Bon, après, d'accord, pas d'accord, mais on est un peu. On a du mal à se mettre d'accord.
Oui, je partage complètement le propos de Denis. Je voudrais ajouter à ça un constat. Il y a une relation difficile entre les États-Unis, l'Europe et la zone euro qui ne date pas de cela. Des propos. Ce qui avait été relevé par Trump, qui quelquefois quand même, à qui il arrivait quelquefois de dire des choses qui n'étaient pas complètement absurdes, c'est la chose suivante. Vu les États-Unis, pendant 10 ans, la zone euro a bénéficié d'un excédent courant de 3 points de PIB, ce qui n'est pas généralisable, puisque évidemment, si certains ont des excédents, d'autres doivent avoir des déficits, c'est le cas des États-Unis. 3 points de PIB de déficit, un taux de chômage en moyenne dans la zone euro élevé, et globalement, une situation des finances publiques qui permettait de relancer un petit peu la demande intérieure, ou par moins de prélèvements, ou par plus de dépenses. Et pendant des années, les États-Unis ont dit à la zone euro, écoutez, faites quelque chose. Et pourquoi il y avait ce problème? Parce qu'intra-zone euro, on a nos difficultés, on a des problèmes de coordination, les excès de chômage sont dans certains pays, et les excédents de balance courante, les excès de chômage sont dans certains pays d'Europe du Sud, Espagne, Italie, France, et les excès de balance courante sont dans d'autres pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Et donc, il y avait un problème de coordination intra-zone euro, mais qui, vu des États-Unis, apparaissait incompréhensible, bien sûr, pour une zone qui partage la même monnaie, la même politique monétaire. Donc, il faut aussi remettre un tout petit peu d'ordre dans ces problèmes de coordination pour pouvoir parler au reste du monde et pouvoir leur dire, attendez, on est aussi une zone qui va assumer complètement ses responsabilités et qui va pas tasser complètement la demande mondiale dans les pays avancés, en particulier par, je dirais, défaut de coordination intra-zone euro. Donc, voilà, il faut tout mettre sur la table. C'est une situation qui a duré pendant 10 ans, hein, celle que j'évoque.
Mais j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à une coordination, comme vous dites. La BCE est encore en train de se déchirer pour savoir quels seront les bons choix de politique monétaire avec des économies qui font le grand écart au sein de la zone. Le t-shirt à taille unique pour 19 gabarits.
Absolument.
C'est pas forcément. Vous voulez dire un mot là-dessus ou je avance? Non. Le SMIC. Je vais donner la parole à Michaël Zemmour. On a 9 minutes 49. Les experts du SMIC, le groupe d'experts présidé par Gilbert Sette, a déconseillé au gouvernement d'accorder un coup de pouce au SMIC au mois de janvier, ce qui signifie que la hausse du SMIC en janvier correspondra à la formule mathématique classique qui permet d'ailleurs depuis un an au SMIC d'augmenter davantage que l'inflation, puisque la partie d'inflation qui sert pour le calcul de la hausse du SMIC est la partie de l'inflation des 20% les plus pauvres, ce qui explique qu'on a un SMIC en un an qui fait plus 8%. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez président du groupe d'experts, Michaël Zemmour?
Qu'il faut changer son fonctionnement et sa fonction.
Changer que le fonctionnement de
du,
quoi?
Du groupe d'experts.
Ah bon?
Oui, bah, je m'explique, hein, c'est très simple. Et d'ailleurs, ça doit être, je suis moi-même un peu mal à l'aise, ça doit être un peu inconfortable à présider, parce qu'en réalité, le groupe d'experts existe depuis 2009, donc ça fait 13 ans. Et chaque année, le gouvernement s'adresse au groupe d'experts. Doit-il y avoir un coup de pouce au SMIC? Et la réponse est toujours
Non, mais il est consultatif. Hein.
Oui, oui, mais gouvernement... la réponse est toujours non. C'est-à-dire que les années de croissance, c'est non, elle n'est pas encore assez haute. Les années de crise, ah non, c'est pas le bon moment. Cette année, c'est oui, mais ça augmente avec l'inflation. C'est toujours non. Et fondamentalement, moi, je ne pense pas que ce soit à des économistes de dire ce qu'il faut faire comme politique salariale. Par contre, ce que je reconnais au groupe d'experts, il n'y a pas un meilleur document sur la rémunération et le SMIC en France que le rapport annuel des experts. Il est vraiment très bien et j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à les regarder. Mais dans la partie recommandation, c'est pas une question pour des économistes. Les économistes, ils peuvent dire, si vous augmentez de 1% le SMIC, voilà ce que je pense qu'il va se passer.
Mais c'est ça, un économiste, il est là pour donner aux politiques.
Mais c'est pas pareil que de faire une recommandation.
Les pour, les moins.
C'est pas pareil que de faire une recommandation. Oui, les recommandations, ça doit être une affaire des organisations syndicales, du gouvernement. Le groupe d'experts peut dire simplement, voilà comment le SMIC a évolué. Et on peut le dire, hein, moi j'ai lu, alors pas suite cette année, mais les années précédentes, les rapports du groupe d'experts. Pendant quelques années, le SMIC s'est éloigné du salaire moyen par sa formule d'indexation. Et cette année, il s'en rapproche un peu parce qu'il est mieux indexé sur l'inflation que les autres salaires. Donc grosso modo, sur les 10-15 dernières années, il est resté à peu près à la même distance
du salaire moyen. On est quoi, à 65% du salaire médian ? C'est du médian, hein, c'est le médian qu'on regarde, pas le moyen, je crois. Et si on ajoute la prime d'activité, qui n'est pas de la rémunération, qui n'ouvre pas de droits sociaux, mais qui est du pouvoir d'achat, on doit être dans les 80% du salaire médian.
Oui, alors...
Pour un SMIC à temps complet, 35 heures, parce que c'est un salaire horaire.
Tout à fait.
Bon. Mais du coup, je sais pas, le coup de pouce, pas le coup de pouce.
Alors,
je crois pas que le gouvernement se soit prononcé pour l'instant, mais...
Non, le timing, c'est que le gouvernement se prononcera le 15 décembre. Pourquoi le 15 décembre ? Parce que le 15 décembre, l'INSEE publiera l'indice définitif de prix, hein, d'évolution de prix pour le mois de novembre. Donc voilà, il faut attendre d'avoir ça pour évoquer le relèvement du salaire minimum. Et c'est ce jour-là que le ministre annoncera sa décision. Effectivement, nous ne demanderons pas de coup de pouce, nous recommandons de ne pas faire de coup de pouce, pour une raison... assez simple, d'ailleurs, les raisons sont les mêmes que les années précédentes, et une raison supplémentaire. Le salaire moyen va perdre du pouvoir d'achat, cette année, comme il peut le faire l'an prochain. Il va perdre du pouvoir d'achat.
Oui, c'est une baisse de salaire.
Le pouvoir d'achat des salariés au SMIC est protégé. Voilà, c'est quelque chose. Il nous semble inéquitable d'aller au-delà. Et dans ce rapport, pour ceux qui sont curieux, je suis très content du compliment qui a été fait sur la qualité de ce rapport. Ça nous coûte beaucoup de temps et d'énergie. On travaille sur la pauvreté. Et il y aura un gros dossier sur la pauvreté laborieuse. Et quand on parle de pauvreté et de pauvreté laborieuse, il faut parler de temps partiel, subi. Moi, quand je vois des familles monoparentales à temps partiel connaître un taux de pauvreté de 30%, sachant que ce taux ne changerait vraiment pas énormément, très peu, si on augmentait même assez fortement le SMIC, que ce qui peut faire changer ce taux, c'est la quantité d'heures travaillées. Vous voyez, faut s'attaquer au problème réel. On veut parler de pauvreté laborieuse. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté laborieuse? Quels en sont les facteurs? Le nombre d'heures travaillées, la configuration familiale. C'est ça les deux facteurs essentiels de pauvreté et de pauvreté laborieuse. Et je voudrais juste ajouter un point. Dans ce rapport, une grande surprise, on a anticipé les propos de Michael dans ce rapport, puisqu'il va y avoir... on fait une proposition. C'est vrai que la négociation salariale doit revenir aux partenaires sociaux. C'est ça leur boulot. Et d'ailleurs, c'est sur cette base que les partenaires sociaux, les syndicats de salariés dans les pays du Nord, Finlande, Suède, etc., ne veulent pas d'un salaire minimum national en disant « c'est notre boulot,
boulot. » C'est leur argument.
Ils en veulent pas. C'est eux qui en veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'on va préconiser, entre autres, comme réforme? Qu'est-ce qu'on préconise? La presse en y a rendu compte. Je crois qu'il n'y a plus de mystère là-dessus. On préconise le fait que l'automaticité du relèvement du SMIC soit basée sur le résultat des négociations de branche, pour que les partenaires sociaux aient réellement en pleine responsabilité cette automaticité. Et puis à cette automaticité, bien sûr, le gouvernement pourrait décider d'ajouter un coup de pouce. Ça, c'est responsabilité qu'on ne peut pas lui enlever. C'est un choix politique. Mais néanmoins que l'automaticité, je dirais, glorifie la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux, ça nous semble positif.
Réaction, Michael Zemmour, pas trop long, je voudrais qu'on dise un mot des nouveaux 6 milliards d'euros, là juste pour terminer, on a 4 minutes. Hein.
Fondamentalement, un point de désaccord quand même, le groupe d'experts le dit de manière un peu sibylline, il pense que le SMIC est trop élevé. Du coup, ces préconisations, c'est toujours de supprimer l'indexation automatique, ça a été dans plusieurs rapports. Grosso modo, il pense que ça a trop augmenté. Et là, Gilles Berset nous dit, Ok, le SMIC a plus augmenté cette année que le salaire moyen, c'est vrai, ça serait pas juste de l'augmenter plus. Pourquoi pas? Mais les années où le salaire moyen augmente plus que le SMIC, vous recommandez pas de suivre le salaire moyen. Donc il n'y a pas de symétrie. Dans les deux cas, c'est toujours une bonne raison pour pas faire de coup de pouce. Et là, il y a quand même, fondamentalement, vous pensez que le SMIC est trop élevé. Et pourquoi vous le pensez? Parce que vous pensez que ça, l'augmenter plus, ça nuirait à l'emploi. Il y a une autre façon de poser la question, c'est de dire à combien est-ce qu'on veut augmenter le SMIC et quelles sont les mesures qui permettraient à la fois d'augmenter le SMIC et de soutenir l'emploi.
Mais comment est-ce que si on augmente le SMIC, on va pas se retrouver avec des non qualifiés sans emploi? On sait très très bien. Là, l'économiste, il est là pour dire si vous donnez un coup de pouce au SMIC, vous aurez tant de personnes qui n'auront plus de boulot. Alors, parce que, d'abord, parce qu'on ne peut même plus baisser les cotisations employeurs, elles sont presque à zéro. Alors, donc, ça a été la solution pour éviter les pertes de compétitivité et l'accroissement de la masse salariale pendant des années quand on faisait des décisions politiques sur le SMIC. Il n'y a plus que maladie professionnelle et accident du travail.
Alors, on l'a tellement fait que le SMIC, pendant des années, j'ai pas regardé cette année, mais jusqu'à il y a deux ans, le SMIC était moins cher que 10 ans auparavant. D'accord? On paye les cotisations employeurs, le CICE, etc. J'entends. Quelqu'un au SMIC coûte moins cher que 10 ans auparavant. Sur toutes les personnes au SMIC, combien on a créé d'emplois? 100 000, peut-être 200 000. Et à côté de ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui faisaient le même métier qu'avant, mais qui coûtaient moins cher à leur employeur, sans qu'il se passe rien, sauf que peut-être on a augmenté les autres salaires. Donc la recette de baisse du coût du travail, on a un fort soupçon de trappe à emploi peu qualifié. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, et je vous rends
juste
la parole.
Un petit point.
On attendra après la réponse du gouvernement.
Un tout petit point. Bon, déjà, le coût du travail au niveau du SMIC est élevé en France, quand on se compare à d'autres pays. Hein, là, il y a des comparaisons de l'OCDE. Par ailleurs, beaucoup de simulations ont été publiées dans ces rapports. Et ces simulations montrent que pour réduire la pauvreté, il est moins coûteux pour les finances publiques d'augmenter la prime d'activité que d'augmenter le SMIC. Coûteux pour les finances publiques, hein, qu'on m'entende bien, pour réduire la pauvreté laborieuse. C'est ce qu'on a montré, c'est ce qui fait que le pouvoir d'achat des salariés au SMIC a beaucoup plus augmenté sur les dernières années, bien avant les deux dernières années, hein, mais sur les années d'avant, que le pouvoir d'achat salarial au SMIC. Et ça, c'est une bonne chose. Je rappelle que pour un salarié à temps plein au SMIC, célibataire, la prime d'activité, c'est plus que 240 euros par mois. Faut quand même le rappeler.
Elle a été très sensiblement rehaussée à la sortie des Gilets jaunes. Ouais.
Voilà.
Bon, on a une minute 20. On va mettre 6 milliards de plus de dépenses publiques dans le budget 2023. On a appris ça. C'est un amendement. Voilà. C'est pour aller aider notamment à couvrir la facture d'énergie des bâtiments qui jusqu'ici étaient les trous dans la raquette du bouclier tarifaire. Ça n'émeut plus personne, 6 milliards
d'euros. Oui, c'est ça qui est inquiétant. Enfin, ça émeut pour l'instant quand même Standard & Poor's, qui a dit qu'ils allaient probablement dégrader la note de la France. Ça émeut le FMI aussi, qui récemment a quand même commencé à agiter le chiffon rouge aussi, en disant quand même, attention la France, les finances publiques dérapent. Donc ça émeut beaucoup en dehors de France, pas tellement en France. Alors j'ai quand même entendu ce matin, Gabriel Attal, d'ailleurs sur BFM TV avant d'entrer chez vous, que ce serait apparemment conditionné, enfin que ça concernerait quand même les gros rouleurs, parce qu'il n'y a pas que les bâtiments, ça concernerait les gros rouleurs et les plus modestes. Donc apparemment, il y aura quand même un peu plus de conditionnement cette fois-ci,
de cibler,
ce qui n'a pas été le cas jusque-là et qui était effectivement un problème majeur, c'est qu'on arrosait tous azimuts sans cibler ces aides qui sont évidemment essentielles pour les plus modestes, qui sont les plus touchés effectivement par l'inflation, surtout les gens qui roulent, hein, puisque la hausse du carburant les touche majoritairement. Donc il y a un peu plus, semble-t-il, de ciblage cette fois-ci, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'était un peu le chiffre du week-end.
Oui, voilà. Et puis surtout,
si vous voulez rajouter un mot de la fin,
la bonne nouvelle aussi, c'est que le gouvernement essaye d'éviter d'augmenter les prélèvements, mais fait reposer effectivement ces hausses de dépenses sur la dette. Et donc, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Et ça va finir par peut-être déclencher un jour un incident de crédit. Espérons que ce ne sera pas le cas.
Ah, c'est la pire des choses. Là, on fera une émission spéciale sur BFM Business le jour où il y a un incident de crédit tricolore. Hein. Gilles Berset aujourd'hui, Denis Père et Michaël Zemmour. Merci à tous. On se retrouve demain à 9h.